Les labels AOC-AOP, le piment des Spelettes, le beurre d'Isigny, mais aussi le Made in France ou les couteaux de l'Aïeul, autant de manières de garantir une origine qui laisse le consommateur souvent dubitatif. Comment savoir d'où viennent les produits que nous consommons? Comment choisir en toute connaissance de cause avec vos questions au 01 45 24 7000 et également sur Twitter, Service Public FI. Les résultats des élections d'hier ont été largement commentés sur France Inter. Ce matin aussi, je serai bref, le premier enseignement, c'est que nos politiciens sont aujourd'hui largement discrédités pour leurs mensonges. À force de se livrer à des acrobaties, il était normal que la gauche perde le Vercors, comme l'a souligné avec force Patrick Cohen.
On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques.
Les magouilles, les affaires ont largement entamé le crédit des politiques, provoquant du coup une ruée vers les théories conspirationnistes avec une certitude grandissante que la vérité ne nous est pas offerte, ou pour le dire autrement, on nous cache tout, on nous dit rien, comme l'a dit Bruno Duvic.
On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien.
Le Parti Socialiste est donc dans un état proche de l'Ohio, comme cela a été fort bien résumé par Thomas Legrand, qui exprimait toute sa colère ce matin avec beaucoup de conviction, je dois dire.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça te gêne qu'on te coince comme ça devant tout le monde? Bah ouais, c'est chiant, je comprends mon gars. Mais dis-toi que t'as de la chance, toi. Toi, t'es né bien comme il faut, t'es solide, t'es cohérent, tu mets personne mal à l'aise dans les restaurants. Tu dors bien sur tes deux oreilles, t'es un bon petit français, t'es beau, t'es bien. Comme un magazine de déco, comme une maison, t'es moi.
Et c'est Léa Salamé qui, avec sa manière toute personnelle, a insisté sur le vote Front National et les conséquences que celui-ci pourrait avoir.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Les beaux labels AOC, AOP, Made in France, comment s'y retrouver? Pour en parler, je suis en compagnie tout d'abord de Jean-Luc Desrien, bonjour. Jean-Luc Desrien, vous êtes directeur de l'INAO. L'INAO, c'est l'Institut National de l'Origine et de la Qualité. Vous nous direz comment sont construits les labels, comment ils sont contrôlés. En face de vous se trouve Jean-Michel Bezat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service économique du Monde et vous venez de publier Enquête sur le Made in France aux éditions First. Et puis enfin, Estelle Touzet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef sommelière, présidente de Gustès, une société de conseil en vin. Estelle Touzet, lorsqu'on achète un champagne, est-on certain que le raisin a grandi dans la région Champagne?
Oui, ça fait partie du cahier des charges pour recevoir l'appellation d'origine contrôlée ou l'appellation d'origine protégée. Donc ça, c'est Jean-Luc Desrien qui pourra confirmer et qui est expert dans la matière. Pour avoir l'appellation champagne, il faut que le raisin soit cultivé et récolté en Champagne, donc en France. Donc un champagne qui viendrait des États-Unis, de Roumanie ou d'un autre pays ou d'une autre région ne peut pas s'appeler champagne, ça n'existe pas.
En revanche, ce que l'on voit souvent sur les bouteilles, c'est la très fameuse méthode champenoise.
Oui, absolument. Et là, on est autorisé à utiliser cette mention, méthode champenoise, qui est une méthode de vinification qui est celle de la Champagne, mais qui autorise les vignerons français ou étrangers à mentionner ce label, en tout cas cette mention sur l'étiquette. Mais
cette méthode, mais alors comment être certain, Jean-Luc Desrien, que la méthode qui est utilisée est effectivement une méthode champenoise?
Non, je crois qu'il faut clarifier un peu le sujet. Champagne, ça n'est produit qu'en Champagne, comme les 350 autres appellations viticoles.
Bon, jusque-là, c'est simple.
Après, vous avez des mentions qui précisent tel ou tel point de technique. Par exemple, méthode champenoise, mais il y en a d'autres qui peuvent indiquer, par exemple, le cépage, ou qui peuvent préciser des vieilles vignes, qui sont des critères, des mentions qualitatives complémentaires, qui sont ouvertes à différentes appellations ou différentes indications géographiques. C'est une précision par rapport à une appellation d'origine, mais le principe d'une appellation d'origine, c'est que le raisin est produit dans la zone délimitée auquel il correspond.
Tout de même, une question, Estelle Touzet, puisque vous êtes sommelière, lorsque vous buvez un vin de Champagne qui n'est pas produit en Champagne, mais avec une méthode champenoise, pour vous, est-il moins bon qu'un Champagne produit en Champagne ?
Alors, lorsque je déguste un vin effervescent produit dans d'autres régions que la Champagne...
Très bien, effectivement, vous dites mieux que moi.
Attention, j'ai les gros yeux de Jean-Luc Dernier en face de moi, donc je fais très attention à mon propos. Donc, déguster un vin, par exemple, un Vouvray effervescent qui vient de la Loire, on en parlait tout à l'heure, qui fait partie de très jolis vins effervescents issus de cépages Chenin, pour moi, ce n'est pas moins bon qu'un Champagne, c'est un produit qui est totalement différent.
Et puis, il y a évidemment, au-delà de ça, la question du Made in France, sur laquelle on va revenir, Jean-Michel Beuzat. Un camembert de Normandie, c'est un camembert qui a été élevé en Normandie. Un camembert de Roumanie, ça pourrait exister ?
Oui, ça peut exister, mais ce qui est la dénomination d'origine, c'est le camembert de Normandie. Ça répond, là, on le disait pour le champagne, à un cahier des charges précis, c'est-à-dire c'est un camembert qui est fabriqué dans une région bien délimitée de Normandie, avec du lait cru extrait de vache normalement élevé en Normandie et moulé à la louche. Voilà. Donc il y a très peu de sociétés qui font du camembert de Normandie. Il y en a beaucoup en revanche qui font du camembert fabriqué en Normandie. Et là, ce n'est pas une AOC fabriquée en Normandie, ce n'est pas une AOC. Camembert de Normandie, c'est une AOC.
On va redéfinir ce qu'est une AOC, une AOP. On va essayer de comprendre comment être certain que le produit que l'on achète avec le label Made in France est effectivement entièrement produit en France. Tout de suite après Miossec, samedi soir, au Vauban, un disque choisi par Stéphanie Texier et Thierry Dupin.
Service public, 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Si nous portons ainsi notre visage, c'est pour qu'il soit un jour aimé. Ce serait quand même bien dommage qu'il ne soit plus jamais caressé. Même s'il a connu des carambolages et qu'il en est sorti cabossé, il a quand même passé l'âge d'aller le soir se faire désirer. On l'attend, je ne sais où, je ne sais quand. On l'attend, dans quel virage, à quel tournant. Ce n'est pas par pure vanité, il faut quand même un certain courage pour aller comme ça le montrer. Il a vu tant d'oiseaux dévorer la cage, il a vu tant de couples se déchirer, qu'il va partir à l'abordage, à la recherche de sa moitié. On l'attend, je ne sais où, je ne sais quand. On l'attend, dans quel virage, à quel tournant. On l'attend, je ne sais où. Samedi soir, au Vauban,
service public sur France Inter, les beaux labels AOC, AOP, Made in France. Comment s'y retrouver? Nous sommes en compagnie d'Estelle Touzet, chef sommelière, de Jean-Michel Beuzat, journaliste au Monde, qui publie Enquête sur le Made in France aux éditions First, et Jean-Luc Derrien, directeur de l'INAO, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité. Jean-Luc Derrien, la différence entre une AOC, une AOP, quels sont les termes qu'il est important de savoir à vos yeux?
Alors, il faut d'abord savoir qu'il y a des signes officiels de qualité, dont l'AOP et l'AOC représentent celle qui est le plus élaborée, l'appellation d'origine contrôlée ou garantie. Alors, schématiquement, contrôlé, c'est le nom français, protégé, c'est le nom européen. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais schématiquement, c'est comme ça. Vous avez un autre signe officiel de qualité, qui est l'indication géographique de provenance, qui est appliquée également au niveau européen. Vous avez ensuite le label rouge, qui est un signe de qualité français, et vous avez le label de l'agriculture biologique AB. Voilà pour les principaux signes officiels de qualité.
Label rouge, on le voit effectivement sur des produits aussi différents que le saumon ou le poulet, mais comme on peut imaginer, même sans connaissance particulière sur la manière d'élever les saumons et les poulets, qu'ils ne se nourrissent pas de la même manière. Qu'est-ce que cela signifie, un saumon label rouge ou un poulet label rouge, Jean-Luc Derrien?
Alors, cela signifie qu'il respecte un cahier des charges qui a été élaboré à l'initiative des professionnels de ce secteur, qui a été vérifié en termes réglementaires et législatifs par des fonctionnaires compétents pour cela, et qui a été reconnu par les pouvoirs publics, nationaux ou européens. Européens lorsqu'il s'agit d'une appellation, nationaux lorsqu'il s'agit d'un label rouge.
Et si l'on est un consommateur extrêmement scrupuleux et que l'on souhaite savoir ce que recouvre ce label rouge pour, par exemple, notre camarade poulet ou notre camarade saumon, eh bien, comment savoir où aller?
Sur le site de l'INAO, par exemple.
Et là, on trouve les méthodes d'alimentation qui sont utilisées, le cahier des charges, effectivement, comme vous dites, pour ces différents produits.
Dans les cahiers des charges, vous avez des dispositions liées à la production agricole qui approvisionne un industriel éventuellement. Et vous avez tout le cursus de transformation qui peut être décrit. Pour un vin, par exemple, vous avez en général des définitions sur le cépage, sur la façon de le cultiver, mais qui est des fois particulièrement précis, l'écart entre les rangs, l'écart entre les pieds de vigne, le nombre de traitements, des tas de paramètres techniques qui permettent comme cela de définir exactement la nature d'un vin qui fait sa typicité.
Si un produit n'a pas un label rouge, si par exemple un poulet n'est pas label rouge, est-ce que ça signifie que tout et n'importe quoi peut être fait avec ce poulet?
Pas du tout. Cela signifie simplement que celui qui bénéficie d'un label a respecté un cahier des charges. Donc, par rapport à une attente, une offre que l'on fait au consommateur, il y a la garantie, parce que derrière le cahier des charges, il y a un plan de contrôle, il y a tout un dispositif de vérification sous l'autorité de l'État et de l'Union européenne qui garantit la promesse qui a été faite à travers le respect d'un cahier des charges.
Nous avons Benoît au standard qui nous appelle de Champagne. C'est une appellation contrôlée, Benoît?
Tout à fait.
Vous avez la preuve que vous habitez...
Toutes les AOC, toutes les AOP.
Et donc vous appelez vraiment de Champagne, hein?
Tout à fait, un tout petit village.
Où ça, en Champagne?
Je suis à côté de Troyes.
À côté de Troyes.
Voilà, un petit, tout petit village.
Et vous aviez un commentaire à
nous
faire.
Oui, une petite précision, j'ai pris l'émission en cours et j'ai entendu vos deux invités parler de méthode champenoise pour ce qui est des bulles autres que la champagne. Je crois que c'est interdit depuis 1994 ce terme de méthode champenoise, on parle de méthode traditionnelle. C'était juste pour apporter cette précision.
Méthode traditionnelle, et qu'est-ce qu'elle signifie alors cette méthode?
Exactement
traditionnelle.
Exactement la même chose que la méthode champenoise, simplement comme les champenois sont très jaloux de ce terme champenois et que c'est extrêmement protégé, ça a été remplacé par méthode traditionnelle depuis fort longtemps maintenant.
Effectivement.
C'était juste une petite précision.
Merci beaucoup pour ce commentaire. La méthode champenoise qui n'existe plus.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et on peut le retrouver encore sur certaines étiquettes, puisqu'on sait qu'on a un délai d'adaptation pour appliquer ce décret. Donc il y a certaines bouteilles, donc certaines étiquettes qui sont collecteurs que vous pouvez retrouver dans vos bouteilles. Donc n'ayez pas de crainte. Si vous retrouvez une bouteille de vin avec mentionné méthode champenoise ou méthode traditionnelle, n'ayez pas peur, d'ailleurs, vous pourrez les déguster. Le vin, a priori, sera bon, à condition de l'avoir bien conservé dans votre cave, bien sûr, et à condition que la manufacture derrière soit de bonne qualité. Voilà.
Et puis, il n'y a pas que le champagne dans la vie, il y a aussi le Beaujolais, n'est-ce pas, Raphaël Manteau ?
Oui, bonjour Guillaume.
Bonjour Raphaël, vous êtes allé dans le Beaujolais parce que là aussi, le fait d'appeler un Beaujolais Beaujolais ne va pas de soi, cela pose des problèmes et cela peut éventuellement compliquer le travail du consommateur.
Oui, il y a des appellations que l'on veut avoir et d'autres que l'on veut cacher. Donc c'est l'histoire de ce vin à l'appellation populaire, le Beaujolais Village. Et dans les années 80, son âge d'or, il coule à flot un peu partout dans le monde, participe à l'ivresse de ses consommateurs et fait des vignerons ravis dans le nord de la région Rhône-Alpes. Petit à petit, ce vin primeur fait de l'ombre aux autres Beaujolais, à ceux que l'on appelle les crus, Juliena, Morgon, Moulin à Vent, Saint-Amour, ceux que les consommateurs du mois de novembre ont oubliés. Aujourd'hui, Laurent Perrachon, viticulteur de crus et président du Juliena, tente de donner une nouvelle étiquette à son vin, un vin du Beaujolais. Et du haut de ses coteaux, il observe minutieusement ses vignes et cherche à une stratégie pour faire oublier l'image de son Beaujolais.
Ils sont après mettre du palissage et mettre des piquets dans les vignes. Donc là-bas, on est sur des terrains plus plats où c'est les Beaujolais villages. Ici, vous êtes dans les crus où on voit c'est très vallonné, des petites collines qui montent jusqu'à 500-600 mètres d'altitude. De chaque côté, on a les Beaujolais et Beaujolais villages. Et au centre, on a donc les 10 crus qui commencent ici, Juliena, à ma gauche, Saint-Amour. Après, là en face, on a le coteau de Chénaud. Derrière, on a Moulin à Vent.
Vous, vous faites bien la distinction entre le fait que vous produisez des crus et non des Beaujolais villages.
J'ai un domaine de 26 hectares, je fais 6 crus du Beaujolais. On a trop parlé un petit peu du Beaujolais nouveau dans notre région. Donc maintenant, en fait, ce que veut la famille des crus du Beaujolais, c'est la mise en avant des vins de garde. Et en même temps, on est persuadé que si on parle des crus, on va tirer les Beaujolais et les Beaujolais villages de garde pour montrer que dans ces appellations, on peut faire des très bons vins à l'export. C'est vrai que le grand export, le Beaujolais nouveau a fait connaître le nom Beaujolais, la région Beaujolais. Ça, c'est sûr que ça a été une grande qualité. Il y a eu des belles époques, hein, les années 80, où le Beaujolais on vendait 500 000 hectos de Beaujolais nouveau. Aujourd'hui, on est à 250 000, donc c'est un vin qui se démode. L'image que ça donne à notre région doit être odorée, quoi.
On va aller dans votre cave.
Ici, vous êtes dans un caveau de dégustation typique, hein, sur la route des vins du Beaujolais.
Quand on regarde les étiquettes de vos bouteilles, le mot Beaujolais n'apparaît pas.
C'est un peu problématique quand il y a marqué Beaujolais. Donc moi, j'ai décidé de ne pas le mettre sur les étiquettes. Mais ça ne veut pas dire que je renie ma région, attention, hein. C'est dans un deuxième temps que je vais leur dire que je suis de la région beaujolaise, mais j'ai décidé de ne pas le mettre sur les étiquettes, voilà. Parce que la plupart de mes acheteurs, mes revendeurs, il y a cette confusion avec Beaujolais nouveau, des vins qui ne peuvent pas se garder. Écoutez, là, je vais vous faire goûter un Juliena. Donc là, on sent bien le côté fruits rouges. C'est un vin un petit peu plus structuré, hein, avec une macération un petit peu plus longue. C'est des vins qui peuvent vieillir. On profite de l'événement quand même du Beaujolais nouveau parce que c'est un événement festif. Il y a beaucoup de touristes dans la région. Il y a des fêtes à Beaujeu, il y a les sarmentelles. Enfin, oui. C'est la nouvelle génération. Bonjour.
Maxime Perrachon, donc je travaille avec mon père depuis 4 mois, voilà, je suis revenu au domaine.
Parce qu'on n'a pas bien de jeunes qui s'installent dans notre région, c'est un peu le malheur, c'est un peu le malheur de la région. C'est vrai que on a quand même une partie, surtout la partie sud du Beaujolais, où des vignes sont abandonnées, malheureusement. Il y a eu la mévente un petit peu, parce que le Beaujolais nouveau, quand on disait qu'il s'en faisait 500 000 hectos, puis maintenant 250 000, et ben, au niveau social, il y a des viticulteurs qui ont arrêté. Mais ça fait que notre région, le paysage a un petit peu évolué. Et puis, pas dans les crus. Dans les crus, ça n'a pas bougé. Mais dès que vous allez dans des villages, Beaujolais village, on voit un petit peu des friches ou des vignes qui ont été arrachées, qui sont devenues des prés, quoi. Donc ça, c'est le revers de la médaille, un petit peu du Beaujolais nouveau. Faut pas se cacher qu'on est une région quand même qui est passée, moi quand je me suis installé en 89, à de 22 500 hectares à aujourd'hui 16 500. Vous voyez, on a perdu 6 000 hectares, on a perdu des familles de vignerons. C'est plus dans les appellations Beaujolais et Beaujolais Village. Donc c'est vrai que les viticulteurs qui ont que des Beaujolais et Beaujolais Village, ils ont beaucoup de mérite, quoi. L'image Beaujolais nouveau, c'est des vins à boire rapidement, à boire le troisième jeudi de novembre. Et aujourd'hui, en fait, on en vend pendant 3 jours et après, c'est fini. Donc cette image de vin à boire rapidement, il faut qu'on l'enlève.
Donc l'appellation Beaujolais ferait baisser le prix d'une bouteille de moitié pour une qualité parfois équivalente à celle d'une bouteille de sa très proche voisine de Bourgogne.
À la vôtre, Raphaël. On a choisi cet exemple, Estelle Touzet, d'abord parce qu'évidemment le vin parle à tous, et notamment à vous, puisque vous êtes sommelière, mais aussi parce qu'on se demande si finalement ces labels, le fait de dire qu'un vin est un Bordeaux, un Bourgogne, eh bien ces labels sont utiles ou n'en viennent pas finalement à obscurcir presque le choix du consommateur, parce que lorsqu'on a dit d'un vin que c'était un Bourgogne, on n'a pas dit grand-chose finalement.
Non, mais c'est important d'avoir une appellation d'origine contrôlée ou une appellation d'origine protégée. C'est là où l'INAO est vraiment très important et indispensable. Sa création en 1936 a permis de mettre en place des cahiers des charges et d'avoir un minimum de qualité inscrit dans chaque région. Après, comme pour tous les produits, que ce soit le vin, que ce soit de la gastronomie ou des produits de manufacture divers et variés, il faut un savoir-faire derrière. Donc c'est bien d'avoir un vin d'appellation et qui vienne d'une région. Si on n'a pas le savoir-faire, si on ne sait pas travailler son terroir et le mettre en valeur, forcément on n'aura pas un produit très qualitatif.
D'ailleurs, il y a Bertrand sur Twitter qui dit, pour un puriste, le champagne de l'Aube, région de Troyes, puisque tout à l'heure nous avions un auditeur de Troyes, n'est pas du vrai champagne, mais une espèce de second choix, vous en pensez ?
Là, je ne suis pas du tout d'accord. Non, il ne faut pas dire ça. En plus, je pense à un vigneron extraordinaire qui s'appelle Emmanuel Lassaigne, qui se trouve à Montgueux, donc au sud de l'appellation champenoise, au nord de Troyes. C'est le total sud de la Côte des Blancs. On l'a appelé pendant longtemps la Champagne Pouilleuse, sauf que ça fait partie, c'était anciennement le Montrachet de la Champagne. On l'a un peu délaissé au profit de la région de Reims, de la montagne de Reims, etc. Et on n'en a pas parlé pendant pratiquement 50 ans, sauf qu'aujourd'hui, il y a des vignerons qui travaillent très bien. Je pense, voilà, spéciale dédicace à Emmanuel Lassaigne, que j'embrasse et qui fait un travail extraordinaire.
Voilà, il faut redonner toute sa dignité au champagne de l'Aube. Nicolas est un auditeur mécontent, puisqu'il dit qu'il y a quand même moins important que la défense des produits agricoles français. Il faudrait tenter de sauver ce qui reste de la culture et, du service public dans ce pays. Mais justement, peut-être qu'on peut considérer que la défense des produits agricoles français fait partie de la culture et du service public dans ce pays. En tout cas, c'est ce que l'on compte faire ici et on va continuer juste après Blondie, Call Me.
Yeah.
Service public, les beaux labels AOC, AOP, Made in France, comment s'y retrouver? Nous sommes en compagnie d'Estelle Touzet, chef sommelière de Jean-Luc Derrien, directeur de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, de Jean-Michel Beza, journaliste au Monde, qui publie Enquêter sur le Made in France. Pourquoi faut-il enquêter sur le Made in France, Jean-Michel Beza? C'est simple pourtant, quand il y a marqué Made in France, c'est que ça doit être fabriqué en France, non?
Pas toujours. C'est bien tout le problème. Le problème, il est évidemment la tromperie sur certaines étiquettes, mais il est surtout sur la définition du Made in France. Qu'est-ce que c'est qu'un produit Made in France? Alors, on a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission de produits agricoles. Donc, les produits agricoles sont en grande partie traçables. Il y a même une quasi-obligation de traçabilité de l'origine pour la viande. C'est une obligation soit française, soit européenne. La viande, les œufs, le poisson, les légumes, le miel. Bon. Sur les derniers produits que j'ai cités, il y a pas mal de tromperies. Mais aussi les produits manufacturés. Et là, c'est beaucoup plus difficile de faire du 100% français, puisque beaucoup de matières premières ont disparu de l'Hexagone. Donc la définition du Made in France, sur laquelle s'accordent notamment les douanes, mais aussi les promoteurs du label Origine France Garantie, c'est autour de 50% du prix de sortie d'usine acquis en France, à peu près la moitié de la valeur ajoutée acquise en France.
Donc ce qui signifie qu'on peut certain qu'il y a évidemment des normes strictes lorsque le Made in France est étiqueté, mais en revanche, tout n'a pas forcément été fabriqué en France dans un produit étiqueté Made in France.
Non, vous prenez des costumes, par exemple, il y a un fabricant de costumes qui a été un peu rendu célèbre parce que Montebourg portait ses costumes, je ne vais pas faire de pub, allez, je vais citer Smuggler. Smuggler se fournit en tissu plutôt en Italie, mais toute la confection est faite en France, dans ses ateliers de Limoges. Et Smuggler a été un des premiers à obtenir le label Origine France Garantie, qui a été créé, je vous le rappelle, en 2011, à l'initiative du gouvernement Sarkozy.
Ce label, Jean-Luc Derrien, est-il important selon vous?
C'est important d'indiquer une origine. Il y a une attente du consommateur de savoir d'où vient et où sont fabriqués les produits qu'il achète. Mais je crois qu'il ne faut pas mélanger ce concept d'Origine France, qui a toute sa légitimité, avec un label de qualité. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de cahier des charges sur la qualité du produit. Derrière Origine France, il y a simplement une indication, partielle d'ailleurs, mais importante, de l'origine des produits ou de la fabrication d'un produit qui utilise cette mention. C'est intéressant, utile, c'est une indication, ça n'est pas un signe de qualité. Les signes de qualité, eux, ils assortissent, lorsqu'ils font référence à l'origine, une indication d'origine et un cahier des charges qualitatif. Donc il y a une double démarche, celle de définir un produit et celle de l'identifier par son origine géographique lorsqu'il s'agit d'une indication géographique. Ce sont deux notions et deux concepts tout à fait différents.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec monsieur.
Jean-Michel Beza.
À cette nuance près que finalement, quand vous faites du Made in France et que vous voulez vendre du Made in France, vous avez une certaine obligation de qualité. Alors, elle n'est pas forcément tracée, elle n'est pas forcément précisément définie, mais dans mon livre, je cite un certain nombre d'exemples d'entreprises qui ont justement rapatrier leur production manufacturière depuis l'Asie parce qu'il y avait des problèmes de défauts et de mauvaise qualité. Ils ont rapatrié cette production en France. Je pense à des vélos électriques, je pense à des ampoules LED, je pense à... Enfin, il y a plein d'objets. Et le fait d'apposer ensuite un petit drapeau tricolore ou ça, sous-entend qu'il y a une qualité par rapport à des produits fabriqués dans l'usine du Monde.
Tout est dans le terme sous-entend. Lorsqu'il s'agit d'un signe officiel de qualité, il ne sous-entend pas, il dit. Sous-entendre, c'est d'abord, ça n'est pas forcément contrôlé, c'est l'engagement volontaire d'une entreprise. La seule chose qui est garantie, c'est que au moins 50% de la valeur ajoutée est faite en France. Point à la ligne.
Nous avons Guillaume de Bretagne. Bonjour Guillaume. Vous nous appelez donc de Bretagne et nous écoutons votre question ou votre commentaire.
Oui, j'aimerais avoir des précisions parce que vous êtes passé très vite tout à l'heure sur la question des contrôles et pour l'ensemble de ces labels. Et en particulier pour le label bio, c'est des chartes de qualité, donc de produits utilisés ou pas utilisés. C'est aussi des processus, mais qui contrôle et quelle quantité de contrôle il y a effectivement ? qui arrive dans les zones de production ou de fabrication. Parce que la confiance qu'on peut avoir sur un label, des fois aussi, dépend des contrôles qui sont faits.
Merci Guillaume, effectivement, pour cette question. Jean-Luc Derrien, lorsqu'on achète un produit, par exemple, avec le label AB pour l'agriculture bio, qui a contrôlé le produit en question? Qui peut nous garantir que celui-ci a été fabriqué avec toutes les précautions requises pour obtenir le label bio?
Alors, le principe d'un signe officiel de qualité, c'est qu'un cahier des charges qui définit ce qu'est ce produit est toujours, pour être reconnu officiellement, assorti d'un plan de contrôle. Ce qu'on appelle un plan de contrôle, c'est précisément la méthode qu'applique l'organisme indépendant qui contrôle ces produits. L'agriculture biologique est définie en général un ensemble de conditions de production agricole qui sont dans le cahier des charges et qui sont assortis d'un plan de contrôle, lequel définit la méthode qu'appliquent les organismes certificateurs qui contrôlent ces quelques 30 000 exploitations qui sont engagées en France actuellement sur ces cahiers des charges. Donc il a la garantie.
Alors, est-ce que vous trouvez beaucoup d'escrocs?
Pourquoi y aurait-il des escrocs? Vous savez, personne.
Ah, vous savez, l'humanité non. est mauvaise.
Il faut rappeler que la politique de qualité dans le secteur alimentaire est une politique volontaire. Personne n'est obligé de faire un vin d'appellation d'origine ou un produit issu de l'agriculture biologique.
Ah, parfois, on en fait peut-être pour vendre la bouteille un peu plus cher.
Mais on s'engage dans une démarche qui est une démarche contraignante par les règles à respecter, contraignante par les contrôles à subir, contraignante par l'étiquetage du produit. Et tout cela fait que, lorsqu'on s'y engage, on n'a pas spécialement envie que ça ne marche pas en contournant la réglementation qu'on a acceptée. Ça serait se tirer une balle dans le pied, si je puis dire trivialement.
Écoutez, il peut y avoir aussi d'autres explications. Estelle Touzet, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de scandales qui émaillaient l'histoire du vin, avec des grands crus qui n'étaient pas si crus que ça, avec également... Non, vous ne voyez pas de quoi je veux parler?
Je m'ai entendu parler.
Alors moi, j'en ai entendu parler. J'ai entendu parler, par exemple, de grands crus de Bordeaux qui ne venaient pas du tout de Bordeaux. J'ai entendu parler également de vins qui étaient des vins coupés, comme il n'était pas précisé qu'ils l'étaient. Dans l'étiquette, est-ce que vous les reconnaissez?
C'était à l'époque de nos grands-parents, ça n'existe plus.
Écoutez, vous avez de très jeunes grands-parents qui ont un an et demi.
Oui, alors, et peut-être qu'il y a des personnes mal intentionnées.
Oui, ça y en a.
Mais c'est une minorité. C'est une minorité. Et je me rapproche de Jean-Luc Derrien pour dire que, effectivement, les personnes qui s'engagent à faire du vin et à mettre un label dessus, qu'il soit bio, qu'il soit biodynamique, bref, s'engagent à faire les choses bien parce qu'on est les défenseurs de notre terroir et de notre hexagone.
Dites-moi, on est là pour promouvoir. On est entre nous. Est-ce que ça vous arrive de goûter un vin et de vous dire, alors ça, à mon avis, c'est pas ce que ce vin prétend être sur l'étiquette?
On peut être déçu par un vin. Après, effectivement, il y a des...
Je parle pas de la déception, je parle de la suspicion.
Ça peut arriver. Ça reste mineur. En tout cas, dans mon champ d'action et dans l'exercice de mes fonctions que j'ai pu exercer jusqu'à maintenant, je n'ai pas ou peu dégusté de vin trafiqué ou voilà.
Ça reste anecdotique.
Oui, mais il faut être clair. Il y a toujours une part minoritaire. C'est pas minoritaire, c'est marginal.
Marginal, voilà.
D'usurpation. Mmh. D'usurpation d'une notoriété qui a été acquise par des gens qui travaillent bien, qui travaillent sérieusement, qui respectent le cahier des charges qu'ils ont eux-mêmes définies.
Nous avons Christine qui nous appelle de la Sarthe au standard. Bonjour Christine.
Oui, bonjour. Je voulais parler d'une expérience que j'ai eue il n'y a pas si longtemps, mais ça n'a rien à voir avec le vin. Donc en Bretagne, dans les magasins Armor Luxe. Donc vous n'avez à l'intérieur du vêtement aucune étiquette qui précise que c'est bien fabriqué en France. Donc moi j'ai téléphoné au service client, j'ai été très très mal reçue d'ailleurs au téléphone, on comprenait pas très bien ce que je voulais savoir, et on a fini quand même par m'expliquer que si je voulais savoir d'où provenait le vêtement, il suffisait que je relève le numéro qui se trouve sur l'étiquette du textile, et là si je fais un courrier, etc., on pourra me dire si c'est fait en Tunisie ou en France.
Et c'est ça, il faut que vous réussissiez à lire le code barre pour savoir exactement où est-ce qu'il a été produit. Bon, effectivement, Ça ne doit pas être simple, Christine. On peut néanmoins se demander s'il est possible d'acheter un vêtement dont on serait certain qu'il est fabriqué en France. Armor Luxe, Jean-Michel Beza.
Armor Luxe, il est relativement vertueux, hein, parce que, non pas sur l'étiquetage, il a fait une politique. Dans mon livre, je parle d'Armor Luxe et je parle d'Agnès B. Deux fabricants de vêtements, je dirais pas de luxe, mais de qualité. L'un a choisi l'une, puisque c'est Agnès B a choisi l'étiquetage d'origine pour une partie de sa production, 40%. Armor Luxe dit aussi qu'il a 40% de sa production, mais a choisi une production française, mais a choisi une toute autre politique qui est de ne pas effectivement indiquer l'origine. Mais c'est très difficile effectivement de savoir si une marinière, celle que portait M. Montebourg il y a 2 ans et demi à la une du Parisien, était faite à Quimper. Ou bien au Maghreb, mais il faut dire que Armor Luxe se bat pour maintenir au moins une partie de sa production en France.
Il est originaire des Atlas Mountains, c'est François, il chante « Les plus beaux François on the Atlas Mountains ».
Tu t'instaures, nous faisons le bas, nous baladons. Soyons les plus beaux, soyons les plus beaux. C'est la grève des journées normales, aujourd'hui moins banales. Demain, qu'en dira-t-on ? Soyons les plus beaux, soyons les plus beaux. Nous marchons tout au bord de l'eau, la mer a bon dos, elle maintient nos regards, elle nous envoie des mots. Elle nous envoie de l'un vers l'autre. Soyons les plus beaux, soyons les plus beaux. Je le sais, chacun de tes gestes abrite un bon cœur. Prête-moi ton char. Je n'y prenne pas mal et dénuder ton cou. C'était un stratagème pour l'ouvrir au lait.
Service public sur France Inter, nous parlons des labels AOC, AOP, tous ces labels que l'on voit sur des bouteilles, des étiquettes, des produits, des emballages. Marie-Elisabeth nous appelle de la Sarthe parce que ce matin, il n'y a que la Sarthe qui nous appelle et nous parlons à la Sarthe, Marie-Elisabeth.
Encore la Sarthe, oui, bonjour.
On aime beaucoup la Sarthe.
Bah oui, méconnue la Sarthe.
Bah oui, elle était avec Beauvoir.
Voilà. Alors moi, je voulais apporter brièvement un témoignage parce que sur l'agriculture bio et sur les labels. Je suis moi-même productrice et transformatrice, donc productrice en agriculture bio et transformatrice en produits bio. Et nous avons en France des labels, des organismes certificateurs extrêmement sérieux. Nous avons de nombreuses contraintes et ça demande énormément de rigueur. Nous avons des contrôles inopinés et puis des contrôles annuels. On peut vous refaire des étiquettes parce que vous avez oublié des virgules. Enfin, moi, je ne m'en plains pas, au contraire. C'est très, très sérieux. C'est pas pour autant que parce qu'on est en bio qu'on fait de la qualité. Attention, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, au niveau de la traçabilité du produit et du respect du consommateur, en France, les labels sont extrêmement exigeants, à tel point que nos produits bio français sont de plus en plus demandés à l'étranger.
Et alors vous, par exemple, qu'est-ce que vous produisez dans la Sarthe ?
Je produis des plantes aromatiques, des huiles essentielles et des cosmétiques bio. Et donc, je suis soumise à plusieurs cahiers des charges. Et je les respecte et je les assume, hein. C'est un choix. Et en plus, en essayant, le seul bémol, c'est que j'aimerais, surtout en cosmétique bio, qu'on aille au-delà du label. C'est-à-dire qu'il y a aussi le qualitatif. Parce que pour pas décevoir les consommateurs, de la cosmétique bio.
Et tout ça, voilà. C'est de la faute de Jean-Luc Desrien, qui est directeur de l'INAO, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité. C'est vous qui embêtez les producteurs de Sarthe et d'ailleurs.
Mais si j'entends bien madame, ça ne l'embête pas, comme vous dites, puisque c'est ce qui lui apporte la garantie, à travers tout le processus de contrôle, que le consommateur aura bien la réponse à son attente. Et c'est ça le principe de base. Par rapport à une promesse qui est faite au consommateur, de lui garantir qu'elle a été respectée, le rôle de l'Institut, le rôle des pouvoirs publics, c'est celui-là.
Mais on a vraiment l'impression que le niveau augmente, c'est-à-dire que les producteurs qui évoquent ces questions de labels parlent de cahiers des charges de plus en plus lourds, de plus en plus précis.
Mais parce que l'exigence du consommateur est de plus en plus précise et que leur attente est de plus en plus forte, lorsqu'il y a une demande géographique, ils veulent savoir d'où ça vient, ils veulent savoir comment cela a été contrôlé, et c'est cette réponse que nous essayons d'apporter.
Jean-Michel Bezat, dans votre livre « Enquête sur le Made in France » aux éditions First, vous racontez une histoire qui est une histoire à la fois drôle et terrible. Elle ne se passe plus dans la Sarthe, elle se passe dans l'Aveyron. C'est l'histoire des couteaux de l'aïeul où l'on apprend qu'il est possible d'avoir des couteaux de l'aïeul « Made in China » avec une marque qui est achetée comme si on pouvait acheter un village. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, on n'a pas acheté un village. En fait, il se trouve que
le couteau l'aïeul, c'est pas un village, c'est une ville.
C'est un gros bourg, oui, du nord de l'Aveyron. En fait, l'aïeul, contrairement au fromage, je pense que M. Desrien ne me contredira pas, le fromage de l'aïeul doit avoir une AOC.
Oui, tout à fait. Hein.
Le couteau ne l'a pas. Et on est dans le cas type d'un produit générique. Donc, 95% des lagioles, couteaux lagioles, sont faits en Chine ou au Pakistan. Alors ça, c'est France contre le reste du monde, mais au sein même de la France, il y a une espèce de guerre picrocolline qui se joue entre Laguiole, le village lui-même, et Thiers, puisqu'une grande partie des couteaux de Laguiole sont fabriqués à Thiers, qui est la capitale de la coutellerie française. Donc, pour mon livre, j'ai interviewé un homme très intéressant qui s'appelle Thierry Moisset et qui a relancer une fabrique à la gueule il y a des années de cela et qui se bat pour l'authenticité du produit, un produit fabriqué selon les règles de l'art du coteau Laguiole tel qu'on le fabrique depuis près de deux siècles.
Et ça, c'est pas problématique quand même, Jean-Luc Desrien, vous qui êtes en charge des labels pour notre pays, ça n'est quand même pas problématique de ne pas être capable de savoir si, lorsqu'on achète un couteau de Laguiole, il est produit en Chine ou à Thiers ou ailleurs.
C'était problématique. Et l'expérience malheureuse de l'aïeul a permis de corriger cette erreur en faisant en sorte que le secteur artisanal puisse rentrer dans la logique des indications géographiques. Si l'aïeul avait été en indication géographique pour ses couteaux, il n'y aurait pas eu ce problème. Donc maintenant, pour l'aïeul, c'est peut-être un peu tard, mais en tout cas, pour les produits artisanaux qui veulent s'identifier à une région de production, eh bien ça devient possible. Et c'est pour cela que l'indication géographique la plus sophistiquée, quelle appellation d'origine, répond à cette demande puisqu'elle associe elle est fondée sur ce triptyque où on associe la définition d'un produit avec un cahier des charges, le savoir-faire de celui qui le produit et le terroir où il est élaboré. Eh bien, c'est cette conception de la définition d'un produit qu'attend le consommateur, et en ce sens, l'appellation d'origine et les indications géographiques sont une réponse efficace à l'attente du consommateur.
C'est donc trop tard pour les couteaux de l'aïeul, mais on y a remédié. Il reste les pipes de Saint-Cloud et Jean-Marc au standard. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Jean-Marc.
Oui, alors moi j'ai une question à poser au monsieur de l'INAO, notamment parce que un jour je suis allé chez un viticulteur du Midi chez qui j'avais l'habitude d'acheter du vin de paille qu'il faisait depuis des générations. Et il me dit « Ah non, j'ai plus le droit d'en faire, ce ne sont que les vins de Savoie ou du Jura, je ne sais plus, qui ont le droit de faire du vin de paille. » Alors qu'il s'agit d'une technique de fabrication, c'est un peu comme si vous n'aviez plus le droit d'appeler un café torréfié, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Le vin de paille, c'est une technique.
C'est comme la fameuse méthode champenoise qui n'existe plus, puisque désormais c'est la méthode traditionnelle. Alors, voilà. Le vin de paille, Jean-Luc Derrien.
Le vin de paille est effectivement une technique de vinification particulière qui a été mise en valeur par les viticulteurs du Jura qui ont défini ce que cela était et qui ont fait en sorte que cette dénomination de paille soit une mention valorisante, un peu comme celle que nous évoquions tout à l'heure pour le champagne. Elle a été reconnue avec sa définition comme étant une mention valorisante des seules appellations d'origine contrôlées qui respectent ce cahier des charges défini et validé par les autorités communautaires. Ce qui veut dire que pour le moment, il y a simplement l'appellation d'origine vin du Jura qui utilise cette dénomination. Ce qui ne veut pas dire que cette technique n'est pas utilisée par d'autres, mais ils ne peuvent pas l'utiliser s'ils ne sont pas en appellation d'origine et s'ils n'ont pas fait la démarche de demander à utiliser cette mention valorisante.
Mais c'est vrai que effectivement, on le voit sur certaines étiquettes d'autres régions que celles du Jura. Donc peut-être que monsieur l'a rencontré effectivement dans le sud de la France. Le vigneron chez qui il allait devait effectivement faire un vin issu de passerillage. Et puis avec cette mention « vin de paille » entre guillemets, ou bref, c'est une petite mention spéciale et pour identifier le produit. On peut pas, c'est comme le terme de vendange tardive. Effectivement, il faut un cahier des charges bien défini pour pouvoir l'utiliser. Et quelquefois, il est mis en valeur un peu de manière abusive, ou en tout cas, l'appellation qui va le mettre en valeur n'a pas forcément fait la démarche auprès de l'INAO. C'est un petit écart de conduite malheureux.
Jean-Michel Bezin, on voit en tout cas, au-delà donc de ces différents cas et de ces différents produits, que le besoin du consommateur, sa demande, c'est de plus en plus de connaître l'origine des produits, de connaître la traçabilité des choses.
Oui, c'est une demande. D'ailleurs, traçabilité, origine et qualité vont de pair, parce que quand un consommateur privilégie le Made in France, il privilégie ou croit privilégier la qualité. Le problème avec le consommateur, c'est qu'il y a un peu loin de la coupe aux lèvres. C'est-à-dire qu'il y a, un fort désir d'acheter français pour diverses raisons. Hein, pour ne pas acheter des produits faits dans des pays où les conditions sociales et environnementales sont totalement dégradées. Mais d'un autre côté, il a beaucoup de mal à passer à l'acte. Hein. Il y a un petit...
Le problème du passage à l'acte est aussi parfois un problème de coût.
Alors, c'est un problème de coût, c'est un problème d'offre, hein, clairement, puisqu'il y a quand même un certain nombre de produits qui ont quitté les rayonnages, hein, les produits d'origine française. Et puis, c'est un problème de coût, puisque globalement, les produits français sont plus chers. Alors, il n'y a pas d'étude très précise qui a été faite là-dessus. Il y a quand même une étude que je cite qui montre que pour un panier moyen, le acheter Made in France peut coûter de 1200 à 3600 euros de plus par an et par ménage.
Voilà, pour les produits agroalimentaires.
C'est assez considérable.
Pas pour les produits agroalimentaires.
Non, c'est essentiellement des produits manufacturés, effectivement.
Nous avons une dernière question, une question de Bruno qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Merci de prendre la question et je vous félicite pour la qualité de votre émission.
Merci Bruno.
Voilà. Donc, moi je reviens hélas sur le vin bio, hein, parce que j'achète du vin bio par philosophie. Hein. Et puis pour la santé, mais c'est très très difficile d'avoir la certitude que le vin qu'on achète est réellement bio, parce que là j'en ai acheté dernièrement et en posant la question, j'ai pas de réponse en fait. J'ai pas de réponse.
Il faut le faire goûter par Estelle avant.
Eh bien écoutez, on prend rendez-vous. Moi, je suis libre à midi hein, pour déjeuner. On peut déguster effectivement le vin.
Midi 30 parce que Bruno est pas libre, il vient de l'Isère.
C'est vrai.
Pardon, j'ai pas compris.
Non, Estelle vous faisait une proposition pour déjeuner avec vous à midi 30.
Ah ben oui, pourquoi pas.
Mais avec pourquoi la bouteille de vin, hein, parce que moi, je peux pas boire d'eau. Je suis désolée.
Ah oui, effectivement, l'eau rouille.
Exactement.
Et lorsque vous goûtez un vin Estelle Touzet, êtes-vous capable de savoir s'il s'agit d'un vin bio ou pas?
Non, sincèrement, non. En plus de ça...
Mais pourtant, il paraît, comme il n'y a pas d'additifs, de choses particulières, il paraît que ça donne vraiment un goût spécifique au vin.
Mais attention, là, vous faites un amalgame qui est très intéressant.
Attention, pas d'amalgame.
En tout cas, une grande confusion que j'ai rencontrée tout au long de mon expérience. Qu'est-ce qu'un vin bio? Qu'est-ce qu'un vin issu de l'agriculture biodynamique? Est-ce qu'un vin nature? Tout ça, c'est effectivement très flou dans l'esprit du consommateur. Pour répondre à notre auditeur, le vin bio régit strictement ce qui se passe dans la vigne. Donc, quand vous achetez un vin bio, vous avez la certitude que ce qui s'est passé dans la vigne est fait pour respecter la vie du sol et avoir des produits, des raisins qui ne sont pas traités ou peu traités à minima. En revanche, effectivement, une fois que le raisin est vendangé et arrive dans la cuverie, rien n'est régi par la mention bio. Donc, effectivement, un vigneron mal intentionné peut faire ce qu'il veut et rajouter les produits chimiques qu'il souhaite. Sauf que...
Il faut qu'il respecte la réglementation, voilà. Quand même.
Certes, il y a un minimum de réglementation, mais ce qui se passe dans la vigne, ce qui se passe dans le chai, pardon, est moins réglementé que ce qui se passe dans la vigne. Donc, ça peut créer effectivement une confusion dans l'esprit du consommateur en disant est-ce que mon vin est totalement bio? Bien sûr que le vigneron qui s'engage à mettre une mention bio AB sur son vin va s'appliquer à faire le travail au mieux possible.
On continuera à évoquer ces questions. On n'a pas pu parler de la clairette de Die aussi, des autres produits. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Jean-Michel Beuzat, Enquête sur le Made in France aux éditions First.